Pendant 20 ans, Jérémy Enorni a occupé une variété de postes dans les métiers des systèmes d'information. Après des études en informatique à Castres, il est d'abord codeur, développeur ou encore spécialiste réseau, avant de prendre le virage de la formation. Et c'est là, alors qu'il est formateur, justement, qu'il crée sa propre société de formation. Quand on voit aujourd'hui où il en est, on a du mal à croire que c'était il y a seulement 2 ans. Parce qu'aujourd'hui, en plus de la formation, Apprenti Weber, c'est le nom de son entreprise, fournit toute une gamme de services à d'autres entreprises de formation. Elle compte 16 personnes et Jérémy et son équipe sont en train de lever des fonds, tout cela sous l'accompagnement de la Technopole de Castres-Mazamet. Dans cet épisode d'InnovaCast, Jérémy nous explique comment il a introduit de l'innovation dans le secteur de la formation et quelle place il donne déjà à l'intelligence artificielle. Jérémy, tu fais plein de choses, c'est difficile de savoir par où commencer. Tu es accompagné par la Technopole de Castres-Mazamet dans le cadre d'Apprenti Weber. Tu peux nous dire un peu ce que fait Apprenti Weber ?
Bien, Apprenti Weber, c'est le premier bébé qu'on a monté avec mon épouse à l'entrepreneuriat. C'est un organisme de formation classique. On est certifié Calliope, on a le label ESUS, hein, Économie sociale et solidaire. Et au sein d'Apprenti Weber, de cet organisme de formation, on est devenu, au fil des, depuis 2 ans qu'on existe maintenant, on est devenu une EdTech. Dans le sens où, plus que de la formation, on a créé un environnement d'éducation technologique autour de la formation. Et donc, Apprenti Weber supporte aujourd'hui plusieurs compétences de type développement d'applications IA. On fait de l'ingénierie pédagogique et on est aussi organisme de formation classique. En même temps d'être une agence web au final.
Deux volets, donc c'est ça, un organisme de formation d'un côté, sur un nombre de secteurs très variés,
oui.
Et de l'autre, ingénierie et agence web. Tu peux nous dire qui sont tes clients de ce côté-là ?
C'est les organismes de formation comme nous, mais qui ont certains contrats, ils doivent débloquer une formation en 3 mois. Eh bien nous, on est là pour les aider à débloquer leur propre formation, on écrit tout le contenu, on développe aussi ce qu'on appelle « learning management system », un espace numérique,
ouais.
Pour suivre ses apprenants, envoyer les notes, envoyer les suivis,
ouais, d'accord.
Gérer dans le même espace les signatures, les présences électroniques,
oui.
La visio avec le formateur et en même temps délivrer le contenu de façon assez fluide.
Donc toute la plateforme qui va leur permettre à distance de faire passer le contenu, les slides,
c'est
visionner,
ça, exactement.
S'enregistrer, émarger, noter, passer un test peut-être, tout ça.
Donc on a créé ces systèmes. Aujourd'hui, il y en a même des entreprises qui ne sont pas des organismes de formation qui viennent nous voir parce qu'elles font des formations en interne sur leurs produits, sur leurs distributeurs, etc. Eh bien, on crée du web pour elles. On a des clients, même des fois, on est surpris qui viennent nous rencontrer dans tous les secteurs de métier, quoi. Là, on a traduit comment monter un moteur de moto pour vous dire à quel point la formation, c'est large, très large.
Tout, c'est très niche même.
Oui, c'est niche, mais au moins on est présent et on répond à un problème qu'ils ont. Ils avaient besoin de 2 heures de vidéo pour démonter une moto complète qui vendait. Il fallait parler en anglais, en italien, et bien français aussi notamment. Et il fallait créer tout le contenu derrière, il fallait pouvoir diffuser les vidéos. C'est timé par 5 minutes. Ouais, voilà, pour chaque
petit module.
Et donc, on a créé toute une ingénierie autour de ça. Et maintenant, les distributeurs, ils y ont accès. Les mécanos qui doivent réparer les motos de la marque, ils y ont accès. Enfin, voilà.
Tu pourrais très bien faire des vidéos pour le FAQ d'IKEA, comment monter les meubles.
Voilà.
Donc, c'est à la fois la création du contenu, comment ensuite l'intégrer au site web ou comment le diffuser en interne.
C'est ça. Ouais. Comment le diffuser, comment former. Bref, on est des prestataires de services d'organismes de formation.
Et le marché de la formation en France, c'est un gros marché, j'imagine.
C'est un gros marché, oui. Il a été évalué pour 2023 à 10 milliards d'euros.
Ah oui.
On a des marchés qui s'ouvrent là, qui sont en train de se conclure pour les 2 ans à venir. Des nouvelles propositions qui arrivent, voilà.
Donc tout va bien, vous êtes bien positionné sur ce marché, justement.
Oui, on est en place sur notre marché, notre segment, il est bien. On fait attention puisqu'on est en permanence en R&D. Puisque même si on a l'impression d'un bateau qui est statique, la formation demande, les apprenants ont un besoin permanent d'innovation, même dans leur apprentissage. L'arrivée de l'IA aujourd'hui a débloqué des curseurs qui étaient bloquants jusqu'à présent.
Comment ?
Bien, par exemple, la façon qu'un formateur a de former.
Ouais.
Aujourd'hui, l'outil IA, quel qu'il soit, permet de générer un visage, permet de générer un contenu, permet de parler à la place d'un humain. Et si l'IA n'avait que le contenu web, permettrait de former.
Sans
humain.
Ouais.
Ça, c'est une réalité. C'est le marché d'aujourd'hui. Simplement, si on est focus que sur ça, on oublie l'apprenant. Un apprenant, dans la mentalité aujourd'hui, qui va payer une formation, ou même l'État,
ouais.
Quand c'est une machine qui forme. Alors, une machine qui forme un humain, ça peut être, ça peut se concevoir dans des métiers comme le web, etc. Ouais. Et encore, si la machine IA est en avance, hein, ou juste à l'instant T et qu'elle n'a pas de vieille source. Mais imaginez former une IA, forme un aide-soignant.
Ouais.
C'est pas vrai. C'est qu'elle accompagne, oui. Qu'elle accompagne dans la pratique, qu'elle peut accompagner dans des points clés, des points de droit, des points médicaux.
Ouais.
Mais un aide-soignant, il doit recoudre une plaie, il doit poser un pansement. S'il n'a pas le toucher, si ce n'est pas un humain qui lui a appris, ça va être compliqué. Du coup, la formation aujourd'hui fait face à l'arrivée de l'IA. Et il faut pouvoir s'adapter derrière, il faut pouvoir être accompagné et il faut surtout se mettre à la place des apprenants. Est-ce qu'ils veulent être formés par une machine ou est-ce qu'ils veulent être accompagnés pour aider à apprendre? On a l'exemple de la calculatrice. À un moment donné, la calculatrice est venue aider les scientifiques à calculer, mais elle n'était pas là pour remplacer les calculs. Ouais. Eh bien, c'est pareil. L'IA, aujourd'hui, doit être un outil et non pas une finalité en soi.
Ça veut dire que toi, dans les formations que tu proposes à tes clients, tu intègres l'IA, mais elle ne remplace pas l'humain.
Oui, comment par exemple, un exemple tout bête, j'ai un auteur en photovoltaïque.
Ouais,
une formation. J'ai un formateur, il est spécialiste dans la photovoltaïque, il est formateur présentiel photovoltaïque. Et il a besoin d'expliquer comment se transforme le soleil, comment va transformer la lumière en énergie et va être intégré dans la maison. Voilà. Donc deux solutions, on fait déjà la vidéo classique, hein, le formateur il est sur place avec ses apprenants. En même temps on le filme, parce que du coup ça peut servir à ceux qui ont été absents. Et après l'IA, en quoi elle peut aider, c'est par exemple dans la transposition scientifique de ce qui se passe. Du coup, notre formateur, en fin de journée, il va s'asseoir, il va écrire du contenu, lui-même, de ce qu'il sait. Et notre IA va lire ce contenu, et en lisant ce contenu, elle va créer un environnement derrière, vidéo. Soit elle va refaire un technicien qui est en train de brancher, d'expliquer, quoi, c'est une IA en fait, hein, et d'expliquer ce qui se passe. Mais en fait, cette IA se servira du contenu écrit d'un humain.
Donc elle se sert de son contenu, donc des connaissances que lui pose sur le papier.
C'est ça.
Pour derrière créer une vidéo ou une animation.
C'est ça, exactement.
Qui illustre le propos.
Exactement, ouais. Une image, une animation qui illustre le propos. Et du coup, on fait ce qu'on appelle de l'adaptive learning. On s'adapte à l'apprentissage aux besoins de l'apprenant à l'instant T. Et surtout, on se sert de la connaissance à l'instant T du formateur et non pas d'une vieille norme. Pourquoi ? Parce qu'en 20 ans que les photovoltaïques existent, déjà, les panneaux ont changé, la façon, ils étaient énormes à l'époque, maintenant ils sont plus fins, plus petits. Et donc, si l'IA, on lui donne juste le thème, explique comment l'énergie solaire est intégrée dans les panneaux, peut-être qu'elle va se servir d'une vieille source des années 2000, alors qu'on est en 2023, et que les normes aujourd'hui, ce n'est pas les mêmes.
Ouais, d'accord.
Et c'est ça le problème. Il y a beaucoup d'écoles qui se sont fait avoir, qui ont dit on va à fond IA, et qui se retrouvent avec des apprenants déçus ou mal formés, parce qu'ils ont fait confiance à la source. Mmh.
Mais alors, cette animation, pour revenir à cet exemple, elle remplace derrière ce que le formateur va
alors,
délivrer
oui
comme
non.
Message.
Oui et non. Elle vient comme un support au formateur.
D'accord.
Le formateur, il va pouvoir illustrer son propos, parce qu'après, il récupère la vidéo. Le lendemain, avec ses apprenants, il se sert de cette vidéo produite pour expliquer à ses apprenants le principe. Du coup, des mots scientifiques sont vulgarisés par l'IA. L'IA, l'apprenant, a un contenu face à lui, visuel, et après, il y a la mise en pratique sur le plateau.
Qu'est-ce qui a développé ces outils d'IA dans votre cas ?
J'ai une équipe formidable. J'ai un ingénieur chez moi, Dev. Tom, il se reconnaîtra, Tom Land.
Bonjour Tom.
Et c'est ma tête pensante depuis 2 ans au sein d'Apprenti Weber. Voilà, c'est à partir de lui que toute cette ingénierie est sortie de chez nous, quoi.
Tu m'as dit que vous étiez en levée de fonds, en phase de levée de fonds.
Oui.
Où est-ce que vous en êtes ?
En fait, la levée de fonds, c'est en ce moment. C'est le mois de septembre, c'est un mois décisif, septembre-octobre, c'est notre série A. On a des partenaires comme la BPI qui sont avec nous, qui sont là. On a des fonds d'investissement aussi. On a des tech aussi qui veulent participer à cette levée de fonds. Et l'idée, c'est de créer une synergie autour du projet que l'on a, de rassurer autour de nous et surtout de déployer notre idée sociale. Hein. Bon, c'est utopique parfois, mais on a une vraie vie sociale. autour de nos apprenants. Et le business qui est créé autour de la formation, il est là justement pour eh bien, permettre à nos apprenants d'être dans les meilleures conditions possibles.
Comment tu en es venu à faire appel à la Technopole de Castres-Mazamet et quel est l'accompagnement qui est en place?
Alors moi, la Technopole, ce qui se passe, c'est que j'ai été formateur dans les bureaux ici, là-haut, de la Technopole. Et moi, je suis de Castres, et il y a déjà peut-être 10 ans en arrière, en 2012-2013, avec mon épouse, on avait postulé pour intégrer la Technopole. Et on avait un premier projet, on n'a pas pu le faire aboutir à l'époque. Et donc, quand j'ai fait ma formation ici, quand j'étais formateur, eh bien, j'ai repris goût à venir ici, à voir les bureaux, à voir tout ça. Et je me dis, tiens, ça serait intéressant, il y a le parking, il est facile d'accès, on a Internet, voilà. Et bien, naturellement, première chose que j'ai fait, c'est de prendre des bureaux ici. Voilà, parce que j'avais une sorte d'attachement au lieu.
D'accord. Voilà. Ça tape bien. Et aujourd'hui, comment ça se traduit? Il y a un accompagnement?
Oui, aujourd'hui, eh bien, il y a l'accompagnement de la Technopole, donc avec l'équipe de Virginia, avec Yann notamment, et anciennement Alexandre, avant qu'il parte. Ben, il m'accompagne dans les financements, levée de fonds, l'innovation. On a fait un premier dossier d'innovation en début d'année. Là, pareil, ils m'ont accompagné. Ils ont fait le lien avec la BPI. Ils ont été aussi présents pour l'amorçage. Ils sont présents pour la levée de fonds. Donc non seulement ils m'aident à pitcher et compagnie, mais en même temps, ils sélectionnent des acteurs qui rentrent en synergie avec moi. Moi, en premier, dans la levée de fonds, je privilégie les acteurs régionaux, même si je suis pas formé aux nationaux, mais en premier, les acteurs régionaux. Donc, on est en contact avec l'IRDI et d'autres structures comme ça, ad hoc aussi, qui nous aident aussi. Et en deuxième, les nationaux qui sont connus. Donc voilà, donc ils me permettent à synthétiser un peu tout ça, à voir un peu clair. Quand à une époque j'étais en hyper croissance, j'ai pas manifesté mon besoin d'aide. Mais maintenant j'ai compris que voilà, ils sont à côté, ça c'est 20 mètres à passer pour aller les voir et c'est rapide quoi.
Bravo Jérémy, merci beaucoup.
Merci à toi.
Bonne continuation.
Merci Nicolas.
À bientôt.
Merci.
Pour retrouver plus d'informations sur Apprenti Weber, rendez-vous sur apprentiweber.fr. Le lien est dans le descriptif de l'épisode. Si l'épisode vous a plu et qu'il pourrait plaire à quelqu'un que vous connaissez, pensez à le partager ou à vous abonner. InnovaCast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute de podcast. À bientôt !